Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Kapi. Bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec l'actualité. On démarre tout de suite cette édition avec le grand titre de ce soir. Accord de Doha, la signature d'une déclaration de principe entre Kinshasa et l'AFC M23 sous médiation qatari suscite de réactions internationales. Kigali salue une avancée majeure tandis que le président français Emmanuel Macron réaffirme le soutien de la France à la stabilité dans la région de Grand Lac. Kinshasa, le projet Topetola contre les inondations à Massina, lancement officiel des travaux de réhabilitation de la voirie et des caniveaux dans le quartier Abattoir, un chantier soutenu par l'Union européenne, la France et l'Agence française de développement pour améliorer les conditions de vie des habitants. Regard sur l'actualité, Georgette Mwena Panzo, une voix pour l'éducation inclusive. En clôture de cette édition, découvrez notre entretien exclusif avec cette militante engagée pour le droit à l'éducation des filles enceintes. Elle revient sur son parcours et son combat pour une école ouverte à toutes, sans exclusion. C'est tout pour les titres. Gisèle Cage à la présentation de ce journal. C'est un tournant majeur sur la voie de la paix dans l'est de la RDC. Après 3 mois des négociations intenses menées sous la médiation du Qatar, le gouvernement congolais et le représentant du M23 AFC ont franchi une étape décisive. Ce samedi à Doha, les deux parties ont signé une déclaration de principe. Parmi les engagements phares, un cessez-le-feu permanent, l'arrêt total des hostilités, un mécanisme de vérification avec la MONUSCO, la libération des détenus d'intérêt sous l'égide du CICR et le retour volontaire et digne des réfugiés en coordination avec le HCR. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre qatari des Affaires étrangères, un signal fort de l'implication diplomatique du Qatar dans la quête de paix dans la région de Grand Lac. Le point avec Alain Rong.
Paraffé à Doha ce samedi, le document engage le gouvernement congolais et le M23 AFC-RDF à avancer ensemble vers une solution négociée à la crise qui secoue l'est de la RDC. La déclaration de principe prévoit notamment un cessez-le-feu immédiat ainsi que l'ouverture des négociations formelles en vue de la signature d'un accord de paix global. Autre point fort de ces textes, une feuille de route est également prévue pour le rétablissement progressif de l'autorité de l'État dans les zones actuellement contrôlées par la rébellion, une fois l'accord de paix final conclu. Pour le gouvernement congolais, il s'agit d'une étape décisive, même si les défis restent nombreux. Réagissant à cette signature, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, a rappelé que la déclaration repose sur le strict respect de la constitution de la RDC, des principes de l'ONU et de l'Union africaine, ainsi que des résolutions du Conseil de sécurité, notamment la résolution 2773 et de l'accord de Washington. Il a précisé que le gouvernement reste ferme sur ses lignes rouges, à savoir le retrait non négociable du M23 des zones occupées, mais aussi le redéploiement des FARDC, de la police nationale, des services de justice et de l'administration publique dans ces zones. Pour le porte-parole du gouvernement, ce texte contient des engagements clairs en faveur de la paix, de la protection des civils et de la souveraineté nationale. Reste désormais à traduire ses engagements en actes dans un contexte toujours tendu.
Sachez que la MONUSCO salue la signature de la déclaration de principe entre la RDC et l'AFC M23 à Doha. Cette avancée marque une étape significative vers une paix durable, le renforcement de la sécurité et le retour volontaire des déplacés et réfugiés. La mission appelle à une mise en œuvre rapide, sincère et coordonnée des engagements pris par les parties. Dans la même veine, dans un communiqué, Kigali salue cette étape importante vers un accord de paix globale rendu possible grâce à la facilitation de l'État du Qatar. Le point avec Blaise Shindani.
Faisant suite à la signature le mois dernier de l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo ainsi qu'aux efforts portés par les initiatives africaines, la déclaration d'aujourd'hui constitue une avancée significative vers un règlement pacifique du conflit à l'est de la RDC en s'attaquant aux causes profondes de l'instabilité et en œuvrant au rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans notre région. Le gouvernement du Rwanda apprécie le rôle crucial des médiations jouées par l'État du Qatar avec le soutien du gouvernement des États-Unis, s'appuyant sur les efforts de l'Union africaine ainsi que sur les initiatives conjointes EAC-SADC et ayant contribué à l'étape importante franchie aujourd'hui à Doha. Nous devons tous soutenir la poursuite de ces progrès jusqu'à son aboutissement. Le Rwanda réaffirme son engagement à contribuer à la paix durable et au développement économique dans la région des Grands Lacs.
Autre réaction notable, celle du président français Emmanuel Macron. Sur son compte X, il salue l'accord signé entre la RDC et l'AFC M23 rendu possible grâce à la médiation du Qatar et de son émir. Je cite, pour le peuple congolais et la région de Grand Lac, la dynamique de paix est recréée et la confiance restaurée. La France poursuivra ses efforts en soutien de la paix. Fin de citation. Kinshasa, bonne nouvelle pour les riverains de Massina, particulièrement ceux du quartier abattoir souvent confrontés aux inondations. Jeudi dernier, la première pierre a été posée pour la réhabilitation de la voirie et des caniveaux de drainage des eaux fluviales. Une étape clé du projet Topetola, financé par l'Union européenne, la France et l'Agence française de développement. Aux côtés du gouverneur de la ville, on l'a noté, la présence du représentant de l'Union européenne, de l'ambassadeur de France et de la directrice de l'AFD. La délégation a également visité les chantiers en cours sur les avenues de la Liberté et du Conseil de ville dans le quartier Salongo à Limité, lancé en septembre dernier dans le même cadre. Reportage signé Babel Pongo, Massimango.
Les avenues à réhabiliter à cette étape en Massina sont Abattoir Vallée, 1374 mètres, et Yamfou, 1263 mètres. Elles seront construites en béton et en forme de V pour favoriser l'écoulement des eaux vers un drain central. Les trottoirs seront en pavé, fabriqués localement à base de plastique recyclé. Pour l'ambassadeur de France, ces travaux visent à renforcer la résilience dans les quartiers vulnérables tels que Salongo Ndano à Limité et Abattoir Massina.
Ces infrastructures sont essentielles pour améliorer la qualité de la vie, favoriser la mobilité et renforcer la sécurité hydraulique des quartiers.
Le gouverneur Daniel Bumba salue le soutien de l'Union européenne et de la France pour relever les défis majeurs de Kinshasa que sont notamment la lutte contre les inondations, l'assainissement et la gestion des déchets.
Kinshasa a été frappé de diverses inondations. Par l'accompagnement de la France et de l'Union européenne, nous avons pu avoir ce projet. Je serai plus heureux quand nous allons revenir pour couper le ruban.
C'est la joie pour les habitants de Bourgmestre de Massina, Joseph Chiki Katumba.
Notre population se voit très honorée des solutions qu'apportent ces projets à la canalisation des eaux de pluie, à la lutte contre les inondations de la rivière Njili et au désenclavement du quartier abattoir.
Antonio Capone, représentant de l'Union européenne, réaffirme l'engagement de son institution à soutenir les efforts pour accélérer le développement de Kinshasa.
En Ituri, la MONUSCO a renforcé ce vendredi les capacités logistiques de l'Assemblée provinciale. 2 conteneurs aménagés et 10 ordinateurs portables ont été remis officiellement au siège de l'institution à Bounia en présence de plusieurs autorités locales. Ces dons visent à améliorer les conditions de travail des agents et cadres dans un contexte marqué par des défis logistiques persistants. Reportage signé Jean-Claude Loki Dile.
Ce geste répond à une demande exprimée par les autorités de l'Assemblée. Notre objectif est d'appuyer les efforts locaux pour un meilleur fonctionnement des institutions, a déclaré Josiah Obat, le chef du bureau de la MONUSCO à Bounia. Il a souligné que cette dotation s'inscrit dans la logique de soutien à la gouvernance locale et à la consolidation de la paix.
S'ils ont une bonne loco pour faire le travail, s'ils ont les outils pour faire le travail, ça va rendre efficace l'Assemblée provinciale au bénéfice des étudiants.
Du côté de l'Assemblée provinciale, la satisfaction est était palpable. Pour le président de cette institution, cet appui arrive à point nommé. Les locaux sont insuffisants pour accueillir tous les personnels. Ces conteneurs vont nous permettre de créer un cadre plus propice au travail, a expliqué Sami Diakonga.
Vous savez, depuis le démembrement, on n'a pas pensé à doter l'Assemblée provinciale de l'Ituri des infrastructures fiables. C'est ce qui nous pose énormément de problèmes aujourd'hui. Et donc, nous pensons qu'avec l'appui de la MONUSCO, tant soit peu, on va essayer de réorganiser les choses pour que le travail soit fait dans des conditions acceptables.
Ce soutien logistique de la MONUSCO s'inscrit dans un contexte de redynamisation des institutions provinciales en Ituri, alors que la région continue à faire face à d'importants défis sécuritaires et administratifs. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Restons en Ituri, leurs regards sont tournés vers un projet d'envergure, la modernisation de la route nationale 27. Présenté ce vendredi à Bounia, ce projet a réuni responsables politiques, membres de la société civile et opérateurs économiques de la province. Longue de 258 km, la RN27 relie Komanda à Mahagi à la frontière avec l'Ouganda, un axe stratégique pour les commerces et la mobilité dans la région. Les travaux seront réalisés par l'entreprise Good News Africa dans le cadre d'un partenariat public-privé avec le gouvernement congolais. Isaac Remoyope nous en dit plus.
Les tronçons concernés relient Komanda à Mahagi, un axe vital pour les commerces, la mobilité et le développement de la province de l'Ituri. Le directeur de l'entreprise affirme que toutes les études de faisabilité et environnementale ont été finalisées, la dernière étape ayant été clôturée jeudi dernier. Il insiste sur l'importance d'impliquer les communautés locales dans cette initiative pour en assurer le succès.
Travaillons main dans la main avec les opérateurs économiques, les transporteurs et les communautés pour faire de cette RN27 est un modèle de développement de l'Est de la République démocratique du Congo.
Le maire de la ville qui a représenté le gouverneur a salué cette initiative qui, selon lui, va non seulement booster le développement de la province, mais surtout améliorer la fluidité du trafic sur cet axe stratégique et contribuer à la pacification de la région.
La route nationale numéro 27 est un axe stratégique non seulement pour les trafics local ou national, capable de soutenir notre développement économique et social, mais aussi qui contribuera à la pacification de la province de l'Ituri.
Mais des obstacles majeurs persistent. L'insécurité dans les territoires de Djougou continue de freiner le déploiement effectif du projet. Jeudi dernier, une équipe de l'entreprise Good News Africa a essuyé des tirs vers l'OPA. Des agents étaient blessés. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Sud Kivu, l'agriculture montre des signes encourageants dans la province dans le cadre de la deuxième phase de l'agenda de la transformation agricole Eb-Ruzizi. Le chiffre parle d'eux-mêmes. 2661 tonnes de maïs produites dans la plaine de la Ruzizi et à Walungu, 6083 tonnes de haricots récoltés à Kabare et 1280 tonnes d'amarantes fraîches issus de la plaine de la Ruzizi. Les travaux de validation de ces résultats ont été lancés jeudi dernier à Uvira en présence des parties prenantes. Ces programmes officiellement lancés en 2022 et mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire avec l'appui technique de l'Institut international d'agriculture tropicale et de l'Institut africain de leadership agricole sous la supervision du Conseil consultatif présidentiel du Pacte national pour l'alimentation et l'agriculture. Objectif, faire de l'agriculture un véritable moteur de la transformation économique du pays. Reportage signé Ronéline Timbonera.
Et ces productions sont le résultat de l'appui apporté à 4 967 ménages de petits producteurs ayant bénéficié des semences de haute performance, des fertilisants, d'un soutien en petite mécanisation et des conseils en bonne pratique agricole pour le culture des maïs, des haricots, de patates douces et d'amarantes. Ces dispositifs a permis d'atteindre un taux de production supérieur à 110%, ce qui réjouit les exécutants de ce programme triennal. Ce résultat prometteur laisse entrevoir que, dans un horizon de 5 ans, la province du Sud-Kivu pourra réduire de 72% ses importations de maïs, des haricots, des patates douces et des légumes frais. Dans le domaine de la production animale, le programme a mis en place une écloserie capable de produire 1 million d'alevins par an, répondant ainsi au manque criant dans les secteurs piscicoles locaux. En parallèle, 131 pisciculteurs ont été formés à la pisciculture moderne avec l'aménagement des 126 étangs et 10 cages flottantes. Cette initiative a permis, dès le premier cycle, de produire 6 tonnes de poissons vendus sur le marché local et d'augmenter le revenu des bénéficiaires de 60%. Lors des mêmes travaux, dans le volet transformation, 5 entreprises dirigées par de jeunes ont été créées, contribuant à la création de 70 emplois.
Nord Kivu, à Beni, dans la région de Mayangos, la production de café et de cacao est en nette baisse en cause le manque d'accompagnement des agriculteurs par le service technique du gouvernement provincial. C'est ce qu'a révélé un élu provincial ce vendredi lors du forum sur la traçabilité des produits d'exportation en Nord Kivu, notamment le cacao et le café. Pour les députés Eli Mbafumoja, il est urgent que les autorités soutiennent les cultivateurs et réhabilitent les routes de dessertes agricoles afin de faciliter l'évacuation des récoltes. Il s'exprime au micro de Marc Marofimbo.
C'est lié à l'accompagnement. Actuellement, ils sont délaissés par les services qui sont censés prendre les relèves des SCOKIV. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'État congolais qui a pris les choses entre ses mains à travers ONAPAC. Il y a d'abord l'accompagnement sur le traitement de ces produits pour que notre produit garde sa qualité, se rassure de sa qualité sur le marché mondial et international. De deux, il y a une taxe conventionnelle que les exportateurs assemblent avec les agriculteurs et l'État congolais se sont convenus pour contribuer à la réhabilitation des infrastructures, que cela aide la population à évacuer ce cacao sans beaucoup de difficultés. Et nous avons posé la question du contrepartie jusqu'aujourd'hui, une année après. Et je pense que nous sommes en train de discuter avec le gouverneur. À l'issue de ces astuces, nous allons trouver un consensus pour accompagner nos agriculteurs qui sont les victimes premières de la mauvaise gouvernance dans ce domaine.
Actualité internationale.
Au Rwanda, la justice a rejeté ce vendredi la demande de libération sous caution de l'opposante Victoire Ingabire, arrêtée le 19 juin dernier. Elle est poursuivie dans une affaire liée à celle de 8 proches de son parti et d'un journaliste youtubeur arrêté en 2021 et accusé notamment de conspiration en vue d'inciter à l'insurrection. Le tribunal de première instance de Kichukiro justifie cette décision par un risque de fuite et d'interférence avec l'enquête en cours. Le parquet avance 6 chefs d'accusation, dont appartenance à un groupe illégal et diffusion de messages haineux visant à créer une opinion internationale hostile au gouvernement. Cette affaire est également liée à une formation en ligne où était partagé le livre « Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes ».
L'invité.
Le débat sur le maintien de filles enceintes à l'école refait surface. C'est un sujet qui divise mais qui touche profondément à l'avenir de nombreuses jeunes filles. Georgette Mouena-Panzo connaît bien cette réalité. Elle-même, tombée enceinte alors qu'elle était encore sur les bancs de l'école secondaire, elle a transformé son expérience en combat. Militante engagée, elle a porté son plaidoyer au niveau national et régional, contribuant à faire évoluer les mentalités et les politiques. Grâce à ses efforts, le ministère de l'Éducation a fini par autoriser le maintien des filles enceintes à l'école. Elle est notre invitée aujourd'hui, Georgette Mouena-Panzo, s'entretient avec Askenzi Biatayoro sur son parcours, ses combats et le défi qui reste à relever pour garantir à toutes les jeunes filles le droit de poursuivre leurs études, quelles que soient les circonstances. Suivez l'entretien.
Mademoiselle Mouena-Panzo, Georgette, bonjour.
Bonjour.
À la conférence de presse de la Coalition nationale de l'éducation pour tous, CONEPT, vous avez été à l'honneur. C'est grâce à votre plaidoyer qu'une circulaire du ministère de l'éducation autorise en ce jour le maintien à l'école des filles enceintes. Quel sentiment avez-vous face à la reconnaissance de votre plaidoyer?
Je dirais que je suis contente, je suis fière parce que mes efforts n'ont pas été inaperçus. Et je suis vraiment contente et fière que le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté entende ma voix et fasse une note circulaire à propos du plaidoyer que j'ai mené.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu brièvement le contexte qui vous a poussé à mener ce plaidoyer? C'était à cause de quoi?
Je dirais que c'était à cause de la discrimination et de l'harcèlement. Je dirais la discrimination parce que déjà à l'école, ils pensaient qu'une fille enceinte n'a pas de valeur. Donc j'ai mené ce plaidoyer pour leur montrer que la femme, même si elle est enceinte, la fille même si elle est enceinte, elle garde toujours son quotient intellectuel. Et dans le contexte de si je mets l'harcèlement, je peux dire que j'ai tenu la tête haute. Pourquoi? Parce qu'il y avait des moqueries. C'était vraiment une longue période difficile que j'ai traversée. Et j'ai pu surmonter cela. Et c'est ça qui m'a poussé à mener ces plaidoyers.
Si nous comprenons bien, vous étiez tombée enceinte pendant que vous étiez à l'école. L'auteur de la grossesse était connu. Comment vous avez jugé son attitude? Est-ce qu'il était intimidé? Est-ce qu'il était poursuivi?
Il avait reconnu, il n'avait pas nié, il a reconnu, chose déjà qui est déjà bon. Mais la chose qui m'intriguait le plus, c'est que il était calme.
Il n'était pas inquiété.
Oui, il était calme, hein, il était calme, il vaguait à ses occupations, il allait aussi étudier, mais moi je restais à la maison comme punition. Je peux dire, ça c'est ce qui me faisait très mal.
Alors, comment vous avez mené ces plaidoyers? Qui vous a aidé dans toutes ces démarches-là?
D'abord, j'ai donné les recommandations au ministère de l'Éducation nationale et de nouvelle citoyenneté et au ministère du genre, famille et enfants. Et j'ai donné des recommandations aux écoles confessionnelles. Et c'est ce que je fais.
Ce n'est pas vraiment clair. C'est-à-dire, lorsque vous avez conçu l'idée de faire des plaidoyers, est-ce qu'il y avait une organisation de la société civile qui vous a accompagné? Ou bien c'est, comment vous avez mené vraiment les démarches pour arriver jusqu'à atteindre même le ministère de l'Éducation?
Il y avait des connaissances à la CONEPT. Nous avons contacté la CONEPT. Comme déjà, ils traitaient ce projet. Comme ils avaient déjà ce projet en main. Et ils ont eu le courage aussi d'avancer dans ça. Et nous avons aussi été soutenus par la World Vision, Vision Mondiale. Ils étaient là aussi pour me soutenir à mener ces plaidoyers.
Paraît-il que vous êtes même allé jusqu'au niveau d'Addis Abeba pour des plaidoyers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça a été là-bas?
Oui, nous étions là-bas. Nous avons parlé de l'éducation de filles et de femmes en Afrique. Et il y avait aussi des panels. Et moi, je parlais de filles enceintes et mères adolescentes. J'ai démontré que la grossesse n'est pas la fin du monde. La grossesse n'est pas une fatalité. Au contraire même, je peux dire qu'il y a certaines filles, après avoir mis au monde, deviennent un peu matures, je peux dire.
Votre expérience est aujourd'hui un exemple à suivre, puisque vous continuez à étudier, vous êtes en L1 SPA, c'est-à-dire à l'UNIKIN. Quel message lancez-vous aux filles dont leurs études ont été interrompues suite à leur grossesse?
Je dirais que ces filles doivent réintégrer l'école, parce que déjà, comme je venais de dire, la grossesse n'est pas une fatalité, c'est pas la fin du monde. Donc c'est une période et ça va passer.
Aujourd'hui, vous êtes là, l'homme qui était auteur de la grossesse, vous avez quel regard sur lui maintenant?
Pour lui, vraiment, je le vois maintenant normal comme moi, parce que déjà, j'ai déjà gagné. C'est que je ne voulais pas, c'est de rester à la maison et ne pas étudier. Mais comme mes parents ont décidé que j'étudie, et moi-même aussi, j'ai décidé de fournir les efforts d'étudier malgré cette circonstance-là. Ça m'inquiète plus du tout.
Mademoiselle Mouena Panzo-Georgette, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Ancienne élève confrontée à l'exclusion scolaire, Georgette Mouena Panzo a transformé son vécu en un puissant plaidoyer pour le droit à l'éducation des filles enceintes. Elle s'est confiée à Askin Zibia Tayoro. C'est la fin de ce journal sur Radio Capi. À la mise en onde, Pierre Diassinois. Présentation Gisèle Cage. Coordination éditoriale Jude Mister Bilanda. Merci de nous avoir suivis. Pour rester informé en temps réel, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook et X ou visitez notre site web www.radiocapi.net. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur la même fréquence.